les racines du ciel. Une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin et préparée par Marie Dalquier. Aujourd'hui, nous recevons André Comte-Sponville pour parler de son itinéraire philosophique. André Comte-Sponville, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Lélie.
Bonjour Frédéric, bonjour André Comte-Sponville. Vous vous définissez comme un philosophe matérialiste à la façon d'Épicure, rationaliste à la façon de Spinoza et humaniste à la façon de Montaigne. Ce qui est déjà un vaste programme, n'est-ce pas? Vous avez exploré ces trois axes de votre pensée dans une vingtaine d'ouvrages traduits dans plus de 20 langues, et vous avez vraiment l'art et la manière de rendre la philosophie accessible, attrayante, de donner envie d'aller plus loin dans les textes, d'entrer dans un travail philosophique qui est ou qui devrait être, fondamentalement, une quête de connaissance et de sagesse en même temps. Vous êtes l'un des chouchous des auditeurs des Racines du Ciel, puisque ils vous réclament, ils nous réclament votre présence et qu'ils nous écrivent leur satisfaction après vous avoir entendu. Néanmoins, après le dernier entretien que nous avons eu ensemble l'année dernière, de nombreux auditeurs nous ont écrit pour nous faire part d'une certaine frustration en disant que vous ne parliez pas assez en votre nom, je les cite, hein, que vous vous cachiez derrière le masque des philosophes du passé, voire que vous dissimuliez derrière une façade de la pensée bien huilée et d'un discours brillant, peut-être une blessure profonde. Et là, ce sont que des citations d'auditeurs. Et voilà que vous publiez justement « Du tragique au matérialisme et retour » aux éditions du PUF en janvier 2015. Il s'agit d'un recueil d'articles déjà publiés ailleurs sur plusieurs années et quelques inédits, mais dans un ordre qui, d'une certaine façon, même si cela relève de l'histoire de la philosophie, un ordre qui nous montre qu'à travers votre exploration des autres, en fait, vous retracez, vous racontez l'histoire de votre propre cheminement philosophique. Alors, je ne sais pas si les auditeurs en sauront plus sur vos blessures profondes, mais ils en sauront certainement plus sur votre cheminement intérieur, intellectuel, philosophique, et à la fois en vous lisant et, j'espère, en vous écoutant aujourd'hui Racines du Ciel.
Alors moi, je trouve cette critique un peu injuste. Ça devait être le contexte de l'émission parce que je connais bien André Comte-Sponville et sa pensée. Je trouve que c'est un des très rares philosophes contemporain qui a développé une pensée personnelle, une philosophie personnelle et qui a fait cet effort de créer des concepts, de chercher vraiment à avoir une pensée sur le monde, sur la vie, sur c'est l'occasion de vous donner la parole pour que vous puissiez nous parler de cette pensée que vous avez élaborée très jeune d'ailleurs, parce que vous aviez une trentaine d'années et je crois que vous êtes resté très proche de ce que vous avez élaboré déjà maintenant une trentaine d'années, mais peut-être avant de venir à cette pensée personnelle, nous dire en quelques mots en début d'émission quelles sont les influences les plus marquantes, même si Lélie les a brièvement évoquées, qui vous ont amené à élaborer votre propre pensée philosophique.
Dire d'abord que les deux sont vrais, ce que vous dites gentiment, Frédéric, que j'ai une pensée personnelle, oui, je crois que c'est vrai. Mais ce qu'ont dit certains auditeurs, d'après ce que rapportait Lélie, à savoir que je me cache derrière les auteurs, non, mais que je m'en serve, que je m'appuie sur eux, qu'en un sens, il m'arrive de me mettre à leur service. Parce que à quoi bon faire semblant d'inventer ce qui est disponible dans 25 siècles d'histoire de la philosophie, si vous voulez. Autrement dit, philosopher, c'est penser par soi-même, mais ça n'est pas penser tout seul. Parce que si on pense tout seul, on pense mal, évidemment. Et donc, c'est vrai que peut-être parce que je suis un ancien prof, je suis un pédago, mais aussi parce que j'aime passionnément la philosophie. Nous disposons de trésors innombrables accumulés en 25 siècles d'histoire de la philosophie. Il serait quand même sot et prétentieux de faire semblant de tout inventer. Et puis, vos auditeurs n'ont pas tort non plus. Mais ça, je l'ai dit parfois sur la blessure secrète, parce que toute vie est blessée. C'est ce qu'on appelle le tragique. On y revient. Alors c'est vrai qu'ayant choisi la philosophie et pas l'autobiographie ou le roman, je passe pas mon temps à raconter ma vie, même s'il m'arrive d'en parler dans certains livres oui. Davantage que dans d'autres. Mais je l'ai dit souvent, le but de la philosophie, c'est le bonheur, la sagesse, disons le maximum de bonheur possible dans le maximum de lucidité. Mais ça veut dire qu'on a d'autant plus besoin de philosophie qu'on est moins spontanément heureux. Autrement dit, les raisons que j'ai eues, moi, de faire de la philosophie, c'est que j'étais peu doué pour le bonheur. Voilà. Je ne fais pas partie des gens qui se réveillent le matin de bonne humeur, pour qui le bonheur est facile. Je pense à notre ami Bertrand Vergely, qui a écrit un livre, L'émerveillement, Retour à l'émerveillement, ou Christian Bobin, je crois que c'est pareil, L'émerveillement simple, si mes souvenirs sont bons. Christian et Bertrand, on a le sentiment, quand ils ouvrent les yeux, le monde est admirable, la vie est belle, le bonheur est là. Bon. Moi, sincèrement, non. Je trouve que le monde est difficile, que la vie est angoissante, souvent douloureuse. Et donc voilà, oui, il y a de la souffrance, il y a de la blessure. D'où ce livre sur le tragique. Alors, pour le dire d'un mot, pourquoi du tragique au matérialisme et retour? Le titre est un peu mystérieux. C'est que je suis parti du tragique, si je veux dire. Les premiers livres de philosophie que j'ai lus, j'avais 16 ans, 17 ans, avant même de faire de la philo en terminale. Donc j'étais un adolescent chrétien, en l'occurrence, plutôt mélancolique, parce que c'est mon tempérament. Et les premiers livres de philosophie que j'ai lus, ça a été dans l'ordre Les Pensées de Blaise Pascal, Crainte et tremblement de Kierkegaard, enfin Le Mythe de Sisyphe de Camus. Bref, trois auteurs tragiques. Et c'est parce qu'ils étaient tragiques qu'ils parlaient tellement à ma sensibilité, qu'ils m'ont tellement marqué. Sauf que, dans les années suivantes, parce qu'il y a eu mai 68, il y a eu la politique, je suis devenu marxiste comme tout le monde, si j'ose dire. J'ai cru trouver dans la tradition matérialiste, depuis Épicure jusqu'à Louis Althusser, pour le dire rapidement, l'antidote du tragique. Voilà. Si on arrivait à penser la sagesse comme le fait Épicure, la béatitude comme le fait Spinoza, peut-être la révolution comme le fait Marx, on était libéré du tragique, ou en tout cas le tragique était un moment provisoire, aussi bien dans l'existence humaine que dans l'histoire, qu'il s'agissait de dépasser. Et puis, 10 ou 20 ans plus tard, j'ai bien dû me rendre compte que non, le tragique continuait. Ça ne retire rien au génie immense d'Épicure, de Spinoza ou de Marx, mais disons qu'ils ont eu tendance à opérer ce que j'appelle une dénégation du tragique. Quand Épicure nous dit, par exemple, à la fin de la lettre à Ménécée, « Si tu médites jour et nuit les maximes que je t'enseigne, tu vivras comme un dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. » C'est très beau, ça me faisait rêver quand j'avais 20 ans, mais ça ne marche pas. Parce que nous ne sommes pas comme un dieu parmi les hommes, parce que nous ne pouvons pas vivre parmi des biens immortels au point de n'avoir plus rien de commun avec un être mortel. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que j'ai quelque chose de commun avec un être mortel. Quoi ? Ben, l'essentiel, c'est que je vais mourir. De même quand Spinoza, au livre 5 de l'éthique, nous dit que pour le sage, la part de lui qui mourra est comme rien par rapport à celle qui ne mourra pas. Alors que la part de nous qui mourra de l'aveu même de Spinoza, c'est le désir, la conscience, la mémoire, l'imagination, bref, c'est vous et moi comme individus. Il y a là clairement de la part de Spinoza, malgré son immense génie, une exagération éthique, une schwarmerei éthique, dirait Kant, bref, une dénégation du tragique. Et de ce point de vue, ce livre marque pour moi une véritable évolution. Alors qu'il s'est étalé sur 25 ans, les articles se sont étalés sur 25 ans, c'est pour ça que c'est si gros, si je veux dire, c'est une demi-vie de travail qui a consisté à tenir ensemble les deux bouts de la chaîne. Oui, Épicure et Spinoza ont raison. Nous avons besoin de philosopher pour penser mieux, pour vivre mieux. Oui, le but de la philosophie, c'est le sagesse, c'est-à-dire le plus de bonheur possible. Mais non, nous ne pourrons jamais évacuer complètement le tragique. Il faut assumer cette dimension-là de l'existence.
Oui, d'ailleurs, c'est très frappant. Enfin, moi, ça m'a beaucoup étonné de voir qu'il s'agissait d'articles qui avaient déjà été publiés ailleurs, puisque on a vraiment l'impression que vous construisez un itinéraire. Donc, ça prouve qu'il y a effectivement une grande cohérence dans votre propre cheminement, sans le savoir.
L'histoire de la philosophie, c'est un peu l'atelier du philosophe. Vous savez, c'est-à-dire que, je le disais, on penser par soi-même, ça n'est pas penser tout seul. Et c'est vrai que depuis que je fais de la philosophie, ma confrontation la plus quotidienne, c'est avec les plus grands génies philosophiques du passé, évidemment. Et ces textes-là, qui étaient tous introuvables, la plupart publiés dans des revues savantes, mais très très peu diffusées, quand on les met ensemble, ça m'a frappé moi aussi, je suis content que vous l'ayez perçu, on a effectivement le sentiment d'une profonde cohérence, mais qui est moins en l'occurrence la cohérence d'un système, puisque là je parle beaucoup des pensées des autres, mis à part l'introduction et la conclusion, qu'est la cohérence d'un itinéraire, en effet. Ce que j'ai voulu rendre accessible, c'est ce long cheminement philosophique qui a été le mien, qui me permet de faire tenir ensemble, au fond, la sagesse telle qu'on la voit chez Épicure et Spinoza, et le tragique tel qu'on le voit dans l'Ecclésiaste, chez Montaigne ou chez Pascal. Et peut-être peut-on dire un mot sur le rapport Spinoza-Pascal. Il y avait un moment décisif dans mon cheminement et qu'on voit repris dans ce livre-là. c'est qu'il y a 5 ou 6 ans, des amis et collègues organisaient à la Sorbonne un colloque Pascal Spinoza. C'est un couple, si j'ose dire, Pascal Spinoza, pour moi, décisif depuis toujours. Mais très peu pratiqué dans l'histoire de la philosophie, parce qu'ils ne se connaissaient pas l'un l'autre. Ils sont contemporains, mais bien sûr, ils ne connaissaient pas leur existence mutuelle, si j'ose dire. Les collègues et amis qui m'invitaient à ce colloque s'attendaient évidemment à ce que je prenne vigoureusement le parti de Spinoza, dont j'ai bien davantage parlé, dont je suis bien plus proche métaphysiquement. Sauf que j'avais annoncé comme thème, et bien sûr ce n'est pas un hasard, j'avais annoncé comme titre « Pascal et Spinoza face au tragique ». Et je me suis mis à travailler. Et j'ai découvert moi-même et à ma propre surprise que sur tous les points s'agissant du tragique, je donnais vigoureusement raison à Pascal contre Spinoza. Autrement dit, moi qui avais passé 20 ans de ma vie, peut-être 30, à jouer Spinoza contre Pascal, c'est-à-dire la sagesse contre le tragique, en bout de parcours, si j'ose dire, je redonnais raison à Pascal au moins sur un point essentiel, qui est justement cette dimension tragique de l'existence. Pascal, le grand tragique, disait Miguel de Unamuno dans son livre sur la condition tragique de la vie. Ben voilà, oui, Pascal est le grand tragique. J'ai espéré un temps m'en libérer, me guérir de Pascal, et plus ça va au fond, plus je me sens proche de lui. À ceci près, bien sûr, que lui croyant Dieu voilà. Et moi pas, mais que le tragique, évidemment, pour l'athée, n'en est que redoublé. Parce que l'exception du tragique pour Pascal, au fond, c'est Dieu. Si vous retirez Dieu, alors le tragique devient sans exception.
Et c'est peut-être ce que voulait montrer Pascal, d'ailleurs. C'est que l'existence sans Dieu est presque invivable.
Elle est presque invivable. Alors là, je trouve qu'il exagère, hein, inversement, parce que c'est un génie immense. Hein. Mais, vous savez, moi, quand j'ai perdu la foi, donc voilà, parlons un peu de ma vie, voilà. Parce que vos lecteurs se plaignent, je ne passe pas assez. Donc, j'étais un chrétien fervent. Notamment, j'étais élevé dans le christianisme, ça c'est banal, mais à l'adolescence, entre autres, grâce à deux aumôniers d'exception, le père Jaffrès et le père Bernard Feillet, qui est resté un ami très cher pour ce qui est du second nommé, le premier est mort. La foi, la religion, le christianisme est devenu pendant quelques années la partie la plus importante de ma vie. Là, j'avais une foi ouverte au doute, comme toute foi digne de ce nom, si j'ose dire, mais très vive, très sincère, très, très profonde. Et puis, voilà, à l'âge de 17-18 ans, j'ai perdu la foi, mais pas du tout dans l'angoisse, pas du tout dans la tristesse, pas du tout dans le malheur. J'ai perdu la foi plutôt avec un sentiment de libération, d'apaisement, de simplification. Et j'évoquais Pascal, Kierkegaard, Camus. Eh bien, la façon dont j'ai perdu la foi m'a paru donner raison à Camus, beaucoup plus qu'à Pascal et Kierkegaard. Parce que Pascal et Kierkegaard, l'un et l'autre nous disent que sans Dieu, la vie est misère. Pascal, la vie est effrayante, dérisoire, désespérante, dit Kierkegaard. Alors que Camus nous montre qu'en effet, s'il n'y a pas de Dieu, s'il n'y a pas de vie après la mort, il y a bien en effet quelque chose de désespérant dans la condition humaine, et j'en ai parlé bien souvent, mais ça n'empêche pas d'être heureux. Et Camus, dans le mythe de Sisyphe, écrivait joliment « On ne peut pas penser l'absurde sans rêver d'écrire un traité du bonheur ». Et bien voilà, ce que Camus appelle l'absurde, au fond, c'est ce que j'appelle le tragique. Et je pense en effet qu'on ne peut pas penser le tragique sans rêver d'écrire un traité du bonheur. Il se trouve que moi, simplement, j'ai commencé par le traité du bonheur. C'était le traité du désespoir et de la béatitude. Je termine par le tragique, mais j'assume ces deux dimensions et de l'existence et de ma philosophie.
Thank you.
France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Nelly Onvar. Alors, qu'est-ce que ça veut dire perdre la foi? Vous n'avez pas tellement l'air d'avoir perdu la foi, en tout cas, peut-être vous l'avez perdu dans ce dieu du christianisme, enfin vous avez l'air d'un homme rempli de foi, en fait.
Non, je suis un homme rempli de fidélité. Là,
de ferveur, je ne sais.
Parler de ferveur, je veux bien, oui. Oui, oui, la ferveur, bien sûr, l'amour de la vie, bien sûr, la fidélité. Non pas la foi, mais la fidélité, c'est-à-dire l'attachement à un certain nombre de valeurs morales, culturelles, spirituelles, qui sont nées pour beaucoup d'entre elles dans les grandes religions, et spécialement, parce que c'est notre histoire, en tout cas c'est la mienne, dans la tradition judéo-chrétienne. Oui, je me définis souvent, vous le savez, comme athée, non dogmatique et fidèle. Alors on peut en dire un mot rapidement. Pourquoi athée? Ben, c'est le plus simple, parce que je ne crois en aucun dieu. Pourquoi athée, non dogmatique? Athée, non dogmatique, parce que je reconnais évidemment que mon athéisme n'est pas un savoir. Je ne prétends pas savoir que Dieu n'existe pas, personne ne le sait. Donc être athée non dogmatique, c'est dire non pas « je sais que Dieu n'existe pas », mais c'est dire « je crois que Dieu n'existe pas ». Pourquoi maintenant athée non dogmatique et fidèle? Bah, fidèle, encore une fois, parce que je reste attaché, pour l'essentiel, aux valeurs judéo-chrétiennes. Ce n'est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur 2000 ans de civilisation chrétienne. Ce n'est pas parce que je suis athée que je vais cracher sur 3000 ans de civilisation judéo-chrétienne. Ce n'est pas parce que je suis athée que je vais refuser de voir la grandeur, au moins morale, humaine, du message évangélique.
Je voudrais revenir un mot sur votre athéisme. Parce que j'entends très bien que vous dites « je ne crois aucun dieu », vous croyez aucun dieu personnel, vous ne croyez pas au dieu qui se révèle dans la Bible ou dans le Coran. Mais il y a d'autres formes de croyances qui ne sont pas en Dieu, qui ne sont pas de l'athéisme non plus. Je pense à Spinoza notamment, hein, qui a quand même une vision du monde qui peut se tout à fait, on peut en discuter, mais qui me semble être quand même très spirituelle, même si elle n'est pas, ne croit pas en un dieu personnel. Et puis il y a effectivement dans l'Antiquité Aristote, les stoïciens, c'est-à-dire qu'on peut croire qu'il y a effectivement une raison universelle, qu'il y a quelque chose de mystérieux qui gouverne le monde, l'âme du monde, sans forcément que ce soit un dieu personnel.
Alors, qu'il y ait du mystère, ça je vous l'accorde tout à fait. Le principal mystère étant la grande question métaphysique, telle que l'a formulée Leibniz par exemple, mais pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Il n'y a pas de réponse possible. Et donc le fait que l'univers soit là, je vous accorde que c'est mystérieux. Mais pourquoi appeler ce mystère Dieu? Pour le reste, je ne suis pas spinoziste, justement. Là, sur ce point-là, je ne l'ai jamais été. Je ne suis pas panthéiste. L'idée que la nature soit Dieu, ça me paraît à l'opposé de ce que je crois d'un Dieu possible. Les gens, des fois, les gens me disent, je ne suis pas athée, je crois qu'il y a quelque chose. Mais je leur réponds, ça, qu'il y a quelque chose, c'est évident. Mais croire en Dieu, c'est pas croire en quelque chose, c'est croire en quelqu'un, bien sûr. C'est-à-dire simplement de croire en la nature, mais la question ne pose pas d'y croire, puisqu'on sait qu'elle existe.
Oui, mais on peut croire à un niveau de réalité plus profond que ce qu'on voit, que le niveau matériel immédiat.
Eh bien, moi, je ne crois pas.
La nature peut être habitée par des forces,
que
par
le niveau matériel. Moi, je suis bien matérialiste. Pour moi, la nature.
Et retour, vous l'avez bien dit.
Du matériel au tragique et retour. Et le retour me ramène au tragique, mais sans m'éloigner d'un pouce du matérialisme. Autrement dit, je ne crois pas du tout en une âme du monde. Alors là, ça me paraît non pas idiot.
Je crois que c'est ce qui nous différencie.
Mais voilà, c'est clairement ce qui nous différencie. Alors. Ça n'empêche pas que je sois attiré par les mystiques, mais j'en ai parlé dans un autre livre il y a quelques années que j'appelais L'esprit de l'athéisme, sous-titré Introduction à une spiritualité sans Dieu. Parce que je crois en effet que nous sommes capables d'avoir un certain type d'expérience, alors qu'on appelle dans le langage contemporain des états modifiés de conscience, mais qu'on appelle traditionnellement des expériences mystiques, qu'il m'est arrivé de vivre, et dont j'ai dit bien souvent que c'est d'ailleurs ce que j'avais vécu de plus fort, de plus bouleversant, de plus simple et de plus heureux. Alors ces états modifiés de conscience, ils sont modifiés en quoi? Ils sont modifiés, alors si on en parle rétrospectivement, parce qu'au départ ça se vit bien sûr dans le silence, mais si je m'appuie sur mes propres expériences et aussi sur ce que j'ai lu chez les grands mystiques, croyants ou non, d'ailleurs parce qu'en Orient, en Asie, il y a beaucoup de croyants, beaucoup de mystiques, pardon, sans Dieu, ces modifications sont un certain nombre de mises entre parenthèses ou de suspensions. Par exemple, mise entre parenthèses du déjà connu, du déjà pensé, comme dit Krishnamurti. Vous savez, l'apparente banalité de tout. Et bien, il m'est arrivé quelques fois, notamment une fois, je me souviens, dans une nuit en forêt que je raconte dans mon livre « L'esprit de l'athéisme ». J'étais seul dans cette forêt, la nuit, sous le ciel étoilé. Et tout d'un coup, que le monde entier soit là, ça m'a paru à la fois bouleversant et incompréhensible. C'est ce que j'appelle le mystère. C'est la question, pourquoi est-il quelque chose plutôt que rien, sauf que justement, je ne me posais plus la question. Et il y avait une suspension, une mise entre parenthèses de toutes les questions, de toutes les interrogations. C'est ce que j'appelle l'évidence. Eh bien, la conjonction du mystère et de l'évidence, c'est déjà un état modifié de conscience. Troisièmement, suspension du manque. Alors ça, c'est très étonnant. Le plus souvent, nous passons notre vie à courir après quelque chose qui nous manque. Eh bien là, pendant ces quelques secondes, tout d'un coup, je ne manquais absolument de rien. C'est ce que j'appelle la plénitude. Quatrièmement, suspension du langage, du discours, de la raison, du logos. Le plus souvent, nous sommes séparés du réel par les mots qui nous servent à le dire, à l'interpréter, à nous en protéger. Et là, tout d'un coup, il n'y avait plus de mots. Il n'y avait plus que le réel. C'est ce que j'appelle le silence. Cinquièmement, suspension du temps. Ou plutôt suspension de ce que nous prenons ordinairement et à tort pour le temps, à savoir le passé et l'avenir. Là, tout d'un coup, il n'y avait plus de passé, il n'y avait plus d'avenir, il n'y avait plus que le présent. Et comme il n'y avait plus que le présent, le présent restait présent. Or, un présent qui reste présent, vous le savez, c'est ce qu'on appelle traditionnellement
l'éternité.
Enfin, je termine
par... Et là, vous avez fait une expérience spinoziste.
Dernier point, suspension par là même de l'espoir et de la crainte. S'il n'y a plus que le présent, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de crainte. C'est ce que j'appelle la sérénité. Voilà, il m'est arrivé pendant quelques secondes, quelques fois dans ma vie, de n'avoir peur absolument de rien. Eh bien, je vais vous dire, pour un anxieux comme moi, c'est une expérience bouleversante. Voilà, ça, je l'ai vécu. Mais pour moi, c'est pas un autre monde, c'est pas une âme du monde, c'est même pas une autre nature cachée derrière la nature. C'est une autre façon de vivre la seule nature. Ce que la méditation orientale, que je pratique parfois, comme vous le savez, le zazen, comme on dit en japonais, m'aide à vivre, c'est-à-dire non pas découvrir je ne sais quelle âme immatérielle, mais être un avec son corps, avec sa respiration. Et bien quand on est un avec son corps, on est un avec tout. C'est une expérience spirituelle, mais ça n'est pas une religion, ça n'est pas autre chose cachée derrière le monde, c'est la façon la plus simple d'habiter le monde tel qu'il est.
Mais on pourrait dire que, je vous entends parfaitement, mais on pourrait dire les choses un peu autrement, on pourrait dire dans le monde tel qu'il est, dans la matière telle qu'il est, il y a peut-être une profondeur invisible pour les yeux, mais accessible par l'esprit, accessible par le cœur. Et à ce moment-là, les choses sont un peu plus complexes que d'un côté le matérialisme, d'un autre côté le spiritualisme.
Tout est plus complexe, sauf que dans les expériences que j'évoquais, il n'y avait aucune rencontre d'amour. C'était ça la vraie différence. C'est-à-dire que...
Ah oui, donc c'était pas mystique
parfois,
alors.
Parfois les mystiques vous disent, ouais. J'ai eu une expérience, je me sentais terriblement aimé. Moi, pas du tout. Au contraire, ce qu'il y avait peut-être de plus merveilleux dans ces expériences que j'évoque, c'est que tout d'un coup, je n'avais plus besoin d'être aimé. Ça, c'est formidable. Une espèce de simplicité, de libération. J'étais plus le petit enfant qui pleure après le sein de sa maman, qui a besoin d'être consolé. Vous voyez. Il y avait cette sérénité qui n'avait plus besoin d'être consolé. Alors, comprenez-moi bien. Ça dure quelques secondes, quelques minutes, ça vient de loin. Je ne suis pas un mystique, il m'est arrivé de vivre quelques expériences, mais malheureusement, rarement, je suis peu doué pour ce genre de choses. Mais de toute façon, on ne va pas au nom de quelques fragments d'éternité, de quelques instants d'éternité, effacer le tout de notre vie quotidienne. Voilà. Ce que j'ai bien aimé dans ce livre sur le tragique, c'est revenir à la vie quotidienne. Vous savez ce qu'écrit si joliment le poète Jules Laforgue, que j'aime tellement, « Ah, que la vie est quotidienne, et du plus loin qu'on s'en souvienne, comme on fut piètre et sans génie. » Ça me bouleverse. J'aime qu'on assume le fait qu'en effet, la vie est quotidienne, qu'en effet, nous sommes piètre et sans génie, et que c'est ça aussi qu'il faut accepter. Et c'est pourquoi de tous les auteurs que j'ai travaillé, et dont on me reproche parfois de trop parler, mais celui au bout du compte auquel je donne une raison, c'est évidemment Montaigne, parce que c'est à la fois celui qui, bien sûr, aime passionnément la philosophie, mais sans y croire tout à fait, sans être dupe des systèmes, qui essaye de penser au plus près de lui-même, au plus près de ses affects, et c'est pourquoi... À mon sens, Montaigne est le maître des maîtres. C'est l'expression qu'il utilisait lui-même à propos de Socrate et c'est l'expression que moi je préfère utiliser à propos de Montaigne.
Oui, d'ailleurs j'avais songé à vous apporter un extrait de Montaigne, mais je vais vous dire, j'ai été prise entre deux, dans une difficulté qui a fait que je ne l'ai pas fait parce que je trouvais ça dommage de le lire en traduction en français contemporain, parce que c'est vrai que la langue de Montaigne est en soi un régal. Et en même temps, lire un texte dans la langue de Montaigne à la radio, c'est une chose dans laquelle je n'ai pas osé me lancer. J'ai peut-être eu tort.
Vous avez raison, c'est trop difficile. Sur les deux points.
Donc il faudrait que nous invitions, comme vous l'avez fait pour une de vos lectrices, je crois, à lire Montaigne dans le texte, avec éventuellement une petite traduction à côté pour les petites difficultés. Mais c'est vrai que on en ressort, c'est une tâche difficile, mais enfin on en ressort évidemment ébloui.
Oui, d'où notamment cette phrase, pour peut-être que je veux dire. Dans les essais, Montaigne écrit notamment une phrase très facile, « C'est chose tendre que la vie et aisée à troubler. » Tendre au sens, peut-être au moins autant de la tendreté, de la fragilité, vous voyez, que de la tendresse. C'est chose tendre que la vie est aisée à troubler. Eh bien, quand à l'inverse, Épicure ou Lucrèce nous expliquent que la sagesse est une forteresse qui nous protège de tous les maux, disons la chose, c'est du pipeau, ce n'est pas vrai. Tant sage qu'il voudra, c'est un homme, écrit Montaigne. Qu'est-il plus caduc et plus de néant? Arrêtons de croire absolument à la sagesse. Qu'on essaye de progresser, d'être un peu plus sage, un peu moins fou. Oui, bien sûr, c'est le but même de la philosophie. Mais cessons de rêver, de nous installer dans une sagesse qui nous guérirait de la tendresse ou de la tendreté de vivre. Voilà. Eh bien, ce livre-là sur le tragique, c'est possible de voir quelle sagesse est possible, que j'appelle une sagesse tragique, qui au lieu d'être la dénégation de tout ce qu'il y a de douloureux dans l'existence humaine, essaye de le vivre, de l'accepter le plus joyeusement possible, le plus heureusement possible, mais sans se masquer à soi-même le fait qu'en effet, c'est chose tendre que la vie est aisée à troubler et que toute la philosophie du monde ne doit pas supprimer ni cette tendresse, ni ce trouble.
Alors, vous avez parlé de tragique, mais peut-être qu'il faut préciser ce que vous entendez par là. Et avant, je voudrais vous lire juste un extrait alors, de Sophocle, pour le coup, qui est quand même le grand maître du tragique. Mais je ne suis pas sûre que vous entendiez le mot tragique dans le même sens que les auteurs grecs dans leur tragédie. Alors là, c'est un extrait d'Antigone, qui est évidemment la tragédie par excellence, dans le sens où dans Antigone, c'est vraiment deux valeurs qui s'opposent et qui sont toutes les deux valable, si je puis dire. Mais en fait, c'est pas de ça dont il est question. Il s'agit donc d'un moment où le cœur, en fait, parle de la vie et donne une présentation, évidemment, tragique de ce qu'est l'existence. Heureux ceux qui ont vécu à l'abri des maux. Quand une maison, en effet, a été frappée par les dieux, il ne manque de génération en génération aucune calamité. De même, lorsque le flot de la mer, poussé par les vents de Thrace, parcourt l'obscurité sous-marine, il fait monter du fond la vase noire et bouillonnante, et les rivages qu'il frappe sont pleins de clameurs. Je vois, dès un temps ancien, dans la maison des Labdacides, les calamités s'ajouter aux calamités de ceux qui sont morts. Une génération n'en sauve pas une autre génération, mais toujours quelque dieu l'accable et ne lui laisse aucun repos. Une lumière brillait encore dans la maison d'Édipe sur la fin de sa race. Mais voici qu'elle est moissonnée, insensée et furieuse par la faux sanglante des dieux souverains. L'espérance mensongère est utile aux mortels, mais elle déjoue les désirs de beaucoup. Elle les excite au mal, à leur insu, avant qu'ils aient mis le pied sur le feu ardent. Je ne sais qui a dit cette parole célèbre. Celui qu'un dieu pousse à sa perte prend souvent le mal pour le bien, et il n'est garanti de la ruine que pour très peu de temps. Alors ici, il parle de la maison des Labdacides, mais on ne peut s'empêcher de penser qu'il pense évidemment à la condition humaine telle qu'elle se donne, c'est-à-dire qu'elle est effectivement tragique parce qu'elle est frappée de toutes sortes de maux, et que ces maux amènent les humains à prendre le mal pour le bien et le bien pour le mal, et donc à mal agir. On voit ici le lien évidemment entre une vision tragique de la vie et la question éthique.
Oui, mais il y a tragique même quand on n'agit pas mal, au fond. D'ailleurs, Antigone, en toute rigueur, n'agit pas mal. Il y a une tension entre la loi de l'État, Créon, et la loi morale ou familiale Antigone, mais on ne peut pas dire qu'elle agisse mal. Non. Alors, qu'est-ce que c'est que le tragique? La notion vient de la littérature. Le tragique, ça a été inventé par les tragédiens. Or, Aristote nous dit, parce que là, moi je parle d'Aristote plutôt que de Nietzsche, petite parenthèse. Nous sommes habitués, par Gilles Deleuze et par Clément Rosset, personnage infiniment talentueux et sympathique, apprendre tragique au sens nietzschéen du terme. C'est-à-dire quoi? Le tragique, pour Nietzsche, c'est l'affirmation joyeuse de tout, même du pire. Mais l'affirmation joyeuse. Ce pourquoi Nietzsche écrit tranquillement qu'Aristote n'a rien compris au tragique. Je vais vous dire, moi, quand quelqu'un me dit Aristote n'a rien compris à quoi que ce soit, déjà,
j'ai un doute.
Oui. Mais quand il n'a rien compris au tragique, alors que c'est les Grecs qui l'ont inventé,
oui,
et qu'il était là.
Bon.
Qui plus est? Nietzsche écrit encore que les grands tragiques grecs, c'est-à-dire Eschyle, Sophocle, Euripide, n'ont pas compris le tragique. Pourquoi? Parce que, écrit Nietzsche, le héros tragique est gay. Voilà ce que les tragiques anciens n'ont pas compris. Alors le fait est que la gaieté foncière d'Œdipe ou d'Antigone, ce n'est pas ce qu'on perçoit d'abord. Alors moi, ça ne retire rien au génie de Nietzsche, il a bien le droit de donner au mot le sens qu'il veut, mais j'ai le droit aussi moi de prendre le mot en son sens plus traditionnel et si j'ose dire, plus mieux avéré. Alors, Je prends tragique au sens traditionnel du terme, donc plutôt comme l'expérience de la souffrance, du malheur, de l'échec, de la finitude, de la mort, en m'appuyant au départ sur Aristote. Alors, rentrons un peu dans les détails. Dans la poétique, Aristote écrit que le tragique, la tragédie, se reconnaît à deux affects, la crainte et la pitié. Et au fond, j'en suis d'accord. Sauf que dans les deux cas, il faut préciser. Alors, commençons par la pitié. Oui, là où il y a tragique, il y a toujours pitié, mais en deux sens différents possibles, qui correspondent en français moderne aux deux sens de l'adjectif pitoyable. Parce que quelque chose, une situation, un personnage peut être pitoyable par excès de malheur. Quand Œdipe découvre qu'il a tué son père, épousé sa mère, il est atrocement malheureux. Voilà, c'est ce que j'appelle le tragique du pire. Mais pitoyable en français moderne, ça peut vouloir dire aussi vain, sans valeur, sans importance. C'est ce que j'appelle, non pas le tragique du pire, mais le tragique de la banalité ou le tragique du dérisoire. Un exemple, dans la littérature, peut-être la phrase la plus tragique de toute la littérature française, à mon sens, c'est une phrase plutôt légère et presque humoristique à la fin de l'éducation sentimentale de Flaubert. Je rappelle pour nos auditeurs en quelques mots la scène, donc ça se passe tout à la fin du roman, les deux héros, Frédéric Moreau et son ami Delaurier, devenu quinquagénaire, se sont perdus de vue pendant 20 ans et puis 20 ans après, ils se retrouvent. Voilà. Et ils font en vitesse le bilan de leur vie. Ils évoquent des souvenirs d'enfance qui sont amis depuis l'enfance. Et notamment, ils évoquent ce souvenir particulier chez la Turque. La Turque, c'était quoi? C'était le bordel de la petite ville de province où ils habitaient l'un et l'autre. Et un jour, ils avaient 16 ou 17 ans, ils décident d'aller chez la Turque pour se dépuceler. Donc, ils mettent leurs beaux costumes, ils prennent un bouquet de fleurs chacun, ils frappent à la porte du bordel. On ouvre, et là, devant toutes ces femmes dévêtues, souriantes, rieuses, ils sont pris de panique, ils partent en courant. Autrement dit, il ne s'est rien passé du tout. Et à ce moment-là, Frédéric dit à Delaurier, c'est ce que nous avons vécu de meilleur. Et Delaurier lui répond, oui, c'est ce que nous avons vécu de meilleur. Autrement dit, ce qu'ils ont vécu de meilleur, c'est presque rien. C'est un non-événement. Ils ne sont pas allés au bordel. Je ne connais pas d'expression plus forte de ce que Flaubert appelle ailleurs l'éternelle misère de tout. Autrement dit, le tragique du pire dans la religion, c'est le livre de Job, évidemment. Le tragique du dérisoire, c'est l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Et moi, dans le théâtre, le tragique du pire, ben c'est le tragique des tragédiens. Eschyle, Sophocle, Euripide, mais aussi bien Corneille ou Racine. Le tragique du dérisoire, c'est plutôt Tchekhov. Tellement bouleversant, alors qu'il nous montre non pas l'excès de malheur, mais ce que j'appelle le défaut de bonheur. Et donc, il y a deux tragiques. Le tragique du pire, l'excès de malheur, le tragique du dérisoire, le défaut de bonheur, et les deux ensemble font le tragique. Et alors il m'est arrivé d'écrire dans un texte de ce recueil, justement, tout ce qui n'est pas tragique est dérisoire. Mais si on prend tragique au sens aux deux sens que je viens d'évoquer, on pourrait dire tout ce qui n'est pas tragique au sens du tragique du pire est tragique au sens du tragique du dérisoire. Et c'est pourquoi la vie est tragique. Alors comprenez-moi bien, ça ne veut bien sûr pas dire qu'il n'y a que le malheur, la souffrance, bien sûr qu'il y a la joie, bien sûr qu'il y a le plaisir, bien sûr qu'il y a l'amour. Mais enfin, l'amour n'empêche pas de souffrir, je dirais presque parfois au contraire, la vie n'empêche pas de mourir, au contraire, toute vie inclut la mort, vous voyez. C'est pourquoi je me méfie comme de la peste, si j'ose dire, d'auteurs comme Cioran, évidemment talentueux, mais qui fait tellement d'efforts pour nous dégoûter de vivre que ça devient un peu lassant, un peu dérisoire, là, pour le coup. Non, pour moi, être né, ça n'est pas du tout un inconvénient, contrairement à ce que prétend Cioran dans l'un des titres de Cilide. Non, je suis très content d'être né, très content de vivre, mais comme je sais qu'inévitablement, parce que je vis, je vais mourir, il faut bien que j'assume les deux dimensions. Voilà. L'amour de la vie, la prise en compte du tragique de la vie. Si on ne tient que l'un des deux bouts de la chaîne, si j'ose dire, on se ment sur l'existence. Alors je crois qu'Épicure et Spinoza, au bout du compte, sous-estiment le pôle tragique, que Cioran sous-estime ce que la vie a d'agréable, de merveilleux, de déchirant, mais de déchirant y compris dans sa beauté, dans sa tendresse. Et moi, je me sens évidemment beaucoup plus proche, et j'essaie de prolonger le sillon de ceux qui, comme Montaigne, comme Tchekhov, tiennent ces deux bouts de l'existence. Je crois que c'est le discours le plus juste, le plus complet, le plus humain. Voilà, j'aime pas les philosophes qui consolent, mais j'aime les philosophes qui aident à vivre.
Et alors, vous mettrez le Voltaire du Candide dans quelle catégorie? Parce que ce que vous dites ressemble quand même beaucoup au fil rouge qui traverse le Candide de Voltaire.
Oui, bien sûr, bien sûr. L'un de mes livres s'appelle Dictionnaire philosophique.
Oui,
c'était Turpin d'Arte, et j'ai repris expressément le titre et même le concept, si j'ose dire, de Voltaire. La seule chose, c'est que Voltaire, qui est un type formidable, n'a pas tout à fait le sens du tragique. Il voit bien que la souffrance, dans Candide, il se moque de l'avenir parce qu'il voit bien que il n'est pas vrai que ce monde soit le meilleur des mondes possibles. Oui, mais il ne voit pas tout ce que la vie a d'intrinsèquement tragique. Autrement dit, il y a tragique pour lui quand il y a un tremblement de terre, quand il y a des horreurs, des massacres. Il a raison, c'est ce que j'appelle le tragique du pire. Mais il passe un petit peu à côté du tragique, du dérisoire. Quand il dit « cultivons notre jardin », il a raison de dire « je cultive moi-même mon jardin », y compris au sens littéral du terme, mais ça n'en est pas moins dérisoire. Le jardinage est aussi dérisoire que le reste. Je ne sais plus dans quel texte, je pense que c'est dans les lettres philosophiques, si mes souvenirs sont bons. Voltaire reprend l'une des pensées de Blaise Pascal. Vous savez, Pascal écrit qu'au fond, nous sommes dans la situation de gens qui seraient prisonniers et qui voient tous les jours quelques-uns d'entre eux emportés pour se faire égorger, hein, et qui attendent leur tour, écrit Pascal.
Bon, bref, Pascal n'est pas un auteur très joyeux.
Hein. Bref, on va tous crever. Voilà ce que dit Pascal. Or, Voltaire répond à Pascal, quand même, il exagère. On n'est pas sur le point de te faire égorger. Oui, mais en même temps, il n'exagère pas quand il dit qu'on va tous crever. C'est vrai à la lettre, si vous voulez, vous voyez. Et donc, la vie est tragique, parfois, parce qu'elle est atroce, parce qu'elle est horrible, mais à la limite, c'est ce que j'appelle plutôt le drame, c'est-à-dire quelque chose qui est contingent, qui peut ou ne pas vous tomber dessus. Voilà, vous pouvez ou pas avoir un accident, avoir ou pas une maladie très douloureuse. Ce que j'appelle le tragique, c'est moins le drame, c'est-à-dire le malheur contingent, le malheur possible, que la finitude et le malheur nécessaire.
Il n'y a pas de happy end.
Il n'y a pas de happy end, voilà. On jette à la fin un peu de terre sur la tête et en voilà pour jamais, écrit Pascal. Et ça, c'est pas une question de chance, c'est pas contingent. Mais il n'y a pas que la mort. La finitude, la solitude, la déception ont une part de nécessité. Celui qui me dit que la vie l'a comblé, qu'il n'a jamais été déçu en rien, sincèrement, j'ai un peu de peine à le croire. Autrement dit, ce que j'appelle tragique, c'est la prise en compte inconsolée de ce qu'il y a d'effrayant, de décevant, voire parfois de désespérant dans la condition humaine. Et ça n'est pas une raison pour ne pas aimer la vie. Mais si on ne l'aime pas aussi dans cette dimension-là, on se raconte des histoires. Or, Althusser disait, ne pas se raconter d'histoires, c'est le principe même du matérialisme. C'est pourquoi pour moi, le tragique et le matérialisme vont ensemble.
France Culture, Les Racines du Ciel, Frédéric Lenoir, Léa Lombard.
Vous parlez très bien du tragique. J'aimerais vous entendre parler maintenant de ce que vous trouvez beau, émouvant, positif dans la vie. Peut-être l'amour, peut-être qu'est-ce qui vous bouleverse dans l'existence humaine et vous donne le goût de vivre.
Mais d'abord, le monde est formidablement beau, au moins par endroits. Et tant que les hommes ne l'ont pas trop massacré, la nature est belle. Les femmes, pour ce qui me concerne, sont belles et extrêmement désirables. J'adore manger, j'adore boire, j'adore faire l'amour. Je ne refuse pas une ou deux cigarettes quand on me les offre. J'adore la musique. Voilà. Il suffit d'aimer Mozart pour considérer que c'est une chance formidable d'être né. Il suffit de lire Montaigne, de lire Baudelaire, que vous évoquerez tout à l'heure, de voir une pièce de Tchekhov, de parler avec ses amis. Moi, il m'est arrivé d'être bouleversé aux larmes, simplement parce qu'un de mes amis jouait de la guitare et chantait une chanson. Quel dommage ça aurait été de ne pas vivre ça. Donc, il y a les plaisirs du corps, comme disait Épicure, et j'y suis très, très sensible, et je ne le regrette pas, bien au contraire. Pardon. Mais il y a aussi les plaisirs de l'âme, la philosophie, l'amitié, l'amour, élever des enfants. Moi, J'ai eu 4 enfants, comme vous le savez. Donc, la première est morte bébé en bas âge, mais quel dommage ça aurait été de ne pas vivre ces expériences-là, qui n'ont pas été des expériences toujours de bonheur. Moi, ça, si tu sais que d'être heureux, je ne suis pas sûr, il faudrait faire des enfants. Mais il ne s'agit pas que d'être heureux, il s'agit de vivre le plus intensément possible, le plus profondément possible. Et là, Nietzsche a évidemment tort. Quand il dit qu'un philosophe ne doit pas faire d'enfant, ça, c'est un peu comme quelqu'un qui me dirait « pour parler d'amour, vaut mieux être puceau si ». Pour parler de la vie, vaut mieux aller au bout de l'amour. Or, moi, ce que j'ai vécu de plus fort comme amour, au fond, c'est mon amour de mes enfants. Parfois dans la douleur, atroce, parfois presque toujours dans l'inquiétude ou l'angoisse. Encore une fois, je suis anxieux, mais c'est ce que j'ai vécu de plus fort. Et puis, il y a nos histoires d'amour, la passion amoureuse, le couple. Et je trouve que bon, le couple est encore plus bouleversant que la passion amoureuse dans ses débuts. Il y a la sexualité, cet océan d'abîme, de plaisir, de trouble qui est tellement délicieux. Oui, non, non. La vivre, être né, pour reprendre la formule de Cioran, c'est le contraire d'un inconvénient. C'est une chance formidable. Mais je ne suis pas Bertrand Verjoli, je ne suis pas Christian Bobin, ce sont des amis que j'adore par ailleurs. Hein, je ne dis pas ça contre eux, mais pour expliquer aux auditeurs la différence. L'émerveillement, l'enchantement, c'est pas mon affect le plus spontané. Voilà, il faut bien que je le dise d'un mot. On m'a demandé là pour le musée des Beaux-Arts de Lille qui prépare une exposition intitulée La joie de vivre. Ils m'ont demandé un texte sur la joie de vivre que j'ai fait très très volontiers. C'est un très beau concept, très belle notion, la joie de vivre. Mais j'avoue dans ce texte même que je suis peu doué pour ça. J'ai des joies. Mais ce qu'il y a de merveilleux dans la joie de vivre et qui est en fait une joie spécifique, c'est qu'elle se suffit d'être vivant. Et voilà, et chez Bobin, j'ai vu ça merveilleusement. Que chez l'homme, Bobin, je veux dire. Moi, il faut que je sois vivant, mais si possible, il faut qu'il y ait un peu plus. Un peu de plaisir, un peu d'ambiance, un peu d'amitié, un peu d'amour, un peu de sexe, un peu... Que sais-je, vous voyez, voilà. Encore une fois, je ne m'en vante pas du tout, comprenez-moi bien. Mais c'est vrai qu'au départ, j'étais peu doué pour la vie. C'est pour ça que j'ai fait de la philosophie, parce que en terminale, j'ai découvert qu'inversement, j'étais assez doué pour la philosophie. Moi, j'étais un élève tout à fait moyen, si vous voulez. Moi. Et puis tout d'un coup, en philosophie, je cartonne, comme on dit. C'est-à-dire que prendre les premières dissertations, premier quand on vit le 17, le deuxième avait 9, si vous voulez. Moi. Vous dites, il se passe quelque chose. Et quand on découvre qu'on est peu doué pour la vie, mais plutôt doué pour la pensée, pour la philosophie, il paraît normal de mettre sa puissance de pensée au service de sa faiblesse de vivre. Eh bien, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais je ne voudrais pas que la puissance de penser escamote la faiblesse de vivre. Je ne veux pas faire semblant d'être un sage. Je ne suis pas Épicure. Je ne suis pas Spinoza. Et malheureusement, je ne suis pas Christian Bobin.
Oui, et en même temps, comme on dirait en persan, que ma vie soit sacrifiée pour ce que vous venez de dire. Parce que dans cette émission, combien de fois on a eu ce débat presque d'une injonction au bonheur, comme si la joie était quelque chose, le but même de la vie, que c'était ça qu'il fallait rechercher, et que finalement c'était pas si compliqué, il suffisait d'un peu de lucidité et d'un peu de bonne volonté, en somme, pour entrer dans la joie. On a eu plusieurs discussions avec Frédéric et nos invités à ce sujet, donc ça me fait chaud au cœur d'entendre que vous mettiez en valeur, je dis bien en valeur, avec toute la valeur qu'a ce mot, cette dimension tragique qui, à mon sens, est nécessaire à la joie. Je ne pense pas qu'on puisse connaître des vraies joies si on n'a pas pris conscience de manière très profonde de la dimension tragique de la vie.
Oui, ou alors ça fait des joies tronquées, des joies illusoires, c'est se raconter des histoires. Non, je crois que vous avez raison, en tout cas moi je le ressens comme ça. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de plus bouleversant chez Mozart, c'est évidemment la conjonction des deux. Si vous réécoutez le concerto pour clarinette, pour prendre un exemple sublime, mais parmi tant d'autres exemples sublimes chez Mozart, c'est merveilleusement beau, c'est une musique sereine, et en même temps c'est déchirant. On a envie de pleurer, mais pas de pleurer parce que c'est triste. On a pleuré, c'est ce que disait si joliment Paul Valéry, le beau c'est ce qui désespère. Hein. Non pas au sein de la tristesse, parce que ça ne laisse plus rien à espérer. Mmh. Et quand on est disposé pour écouter Mozart, parce que comme l'a dit Stendhal un jour, on n'est pas tous les jours disposé pour écouter Mozart. Il faut une qualité d'écoute, de disponibilité. Mais quand les moments où on est vraiment un avec la musique, voilà, le beau c'est ce qui désespère, non pas parce qu'on est triste, mais parce qu'il n'y a plus rien à espérer, mais malgré tout, du même coup, notre petite vie nous paraît pour ce qu'elle est, hein, quel déchirement que de n'être pas Mozart. Et voilà, moi, ça me touche, si vous voulez. Et j'aime effectivement les auteurs qui vivent au plus près de ces expériences-là. Et puis, vous savez, en philosophie, enfin, dans la vie en général, mais en philosophie en particulier, il y a une question de sensibilité, alors qu'on n'a pas choisi, hein, qui vient du corps ou de l'enfance, mais qui existe, par exemple, dans la Bible. Ils sont frappés, il y a les gens qui ont lu la Bible. Il y a deux textes souvent privilégiés. Il y a ceux qui préfèrent le Cantique des Cantiques, très beau texte évidemment, et il y a ceux qui préfèrent l'Ecclésiaste. Eh bien, je vais vous dire, je fais partie de la seconde catégorie. L'Ecclésiaste est un livre qui me bouleverse à chaque fois. C'est-à-dire le seul livre de la Bible que j'ai lu plusieurs fois en entier. Je ne suis pas un grand lecteur de la Bible. Moi, les textes pieux me tombent assez vite des mains. Mais l'Ecclésiaste, à chaque fois que je reprends ça, je me dis, mais ce type-là, il a dit l'essentiel en quelques pages. Mais vanité, des vanités, tout est vanité. Et pourtant, c'est une leçon de joie, de plaisir, c'est un hédonisme. Vous savez ce que disait Marcel Conche, l'Ecclésiaste, ce livre épicurien. Alors, dans la bouche de Marcel Conche, spécialiste d'Épicure, ça a du poids. Et j'ai trouvé chez Renan une formule équivalente, mais encore plus juste. Dans la vie de Jésus, Renan écrivait, l'épicurien désabusé qui a écrit l'Ecclésiaste. C'est plus juste, parce que s'il est désabusé, il n'est plus tout à fait épicurien. Parce que justement, il sait bien qu'on ne sera jamais comme un dieu parmi les hommes. Mais ça n'est pas une raison pour ne pas aimer la vie. Et l'Ecclésiaste dit expressément, jouis de la vie avec la femme que tu aimes. Et c'est justement parce que tout est vanité. C'est justement parce qu'on va tous mourir au bout du compte qu'il n'y a rien de mieux à faire que de jouir de la vie avec la femme que l'on aime. Voilà, moi je fais partie non pas des admirateurs du Cantique des Cantiques, qui est un chef-d'œuvre par ailleurs évidemment, mais je fais partie des admirateurs de l'Ecclésiaste. C'est ma famille spirituelle, comme Montaigne, comme Tchekhov, comme Schubert en musique, moins sublime que Mozart, mais encore plus déchirant parce que plus près de cette tendresse de vivre.
Mais comme vous le dites très justement, ça fait partie de votre sensibilité. Et moi, plus je lis les philosophes et plus je me dis, au fond, on philosophe à partir de sa sensibilité.
Bien sûr, voilà, c'est ce qu'il faut avouer.
Schopenhauer était déchiré par tout, il fait une philosophie pessimiste. Épicure devait être un bon vivant joyeux, fait une philosophie optimiste.
Voilà, et c'est ce que mon livre, comme itinéraire, alors, de façon philosophique, hein, c'est pas une autobiographie, hein, mais et j'essaie de rendre ça perceptible. J'essaie d'expliquer comment on ne pense pas tout seul, on ne pense pas dans le vide. On pense en se confrontant à la pensée des grands auteurs du passé, aussi à la pensée de ses contemporains, de ses amis, de ses proches, mais aussi voilà, au plus proche de ses affects. Arrêtons de faire semblant.
Tout à fait.
Je ne vais pas faire semblant d'être un sage, je ne vais pas faire semblant d'être un esprit léger, frivole.
Non, ou qu'il existe qu'une raison désincarnée. En fait, la raison s'incarne dans nos affects.
Voilà.
Et c'est ce, qui nous,
temps,
c'est ce qui nous fait penser dans un sens ou dans un
mais
autre.
Mais en même temps, les affects ne tiennent pas lieu d'arguments, ne disparaissent pas de rigueur. Et moi, j'essaie, c'est pour ça. D'où l'aspect, malgré tout, si vous voulez, il faut le dire au lecteur, hein, c'est pas un petit essai léger.
Non,
facile.
700 pages.
Oui, non seulement c'est gros, mais pour certains textes, c'est dense, il y a beaucoup de références, beaucoup de notes en bas de page, parce que, justement, je me confronte à la pensée de quelques-uns de mes maîtres, alors, depuis, toi, maître au sens propre, alors, oui, au sens biographique, même Marcel Conche ou Althusser, mais des maîtres philosophiques comme Épicure et Spinoza, et puis aussi de quelques adversaires privilégiés, spécialement Nietzsche. Il y a plusieurs textes sur Nietzsche, c'est pour moi le rapport à Nietzsche, qui est un génie aussi, mais assurément, je ne suis pas nietzschéen, en tout cas, pas sur tous les points, tant s'en faut. C'est un rapport très important. Et puis des gens avec qui j'ai voisiné, comme Alain, dont je n'ai pas tout la même philosophie, mais qui m'a appris aussi à penser, la maîtrise, le matériel du 18e siècle. Voilà. Et on pense à partir de ce qu'on est, donc il y a une sensibilité philosophique, mais il s'agit de penser. Il ne s'agit pas d'accumuler les symptômes ou les réactions à fleur de peau. Et au fond, j'aime ça dans la philosophie, cette tension qu'il y a aussi entre la rigueur de la pensée avec la part nécessaire d'abstraction, de connaissance, de travail, et là encore la tendresse ou la fragilité de vivre.
Alors merci André, nous avons presque terminé cette émission, mais pas tout à fait, parce que nous allons maintenant avoir la chronique mensuelle de Marie Dalquier, qui va donc nous parler quelques minutes avant que nous puissions conclure cette émission.
Music is God, my love. 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 Music is God.
Bonjour Marie.
Bonjour.
Alors, je vais vous parler de Chassol. Chassol, C-H-A-2-S-O-L, qui est un musicien avec beaucoup, beaucoup de spiritualité. Alors, il a sorti 3 albums. Un album qu'il a fait en partant de la Nouvelle-Orléans, un autre ensuite en Inde et un autre sur les Antilles. Alors, c'est un album qui plaira aux gens qui aiment Keith Jarrett, Bartok, la musique concrète, la soul, mais qui aiment aussi Fantasia, West Side Story. Alors, c'est un album qui m'a particulièrement attirée suite aussi aux émissions qu'on a fait sur le spirituel dans le jazz. Donc, il est complètement dans cette lignée. Très brièvement, Chassol, il a une 30aine d'années, il est originaire des Antilles, il ressemble un peu, il a le look un peu à la Basca. Et son concept, en fait, c'est qu'il va faire des films. Et à partir de ces films, il va créer une musique en mettant des notes sur les sons, sur le chant, sur les discussions, sur le chant des animaux, sur les paroles des gens, sur le bruit de la ville. Et il va créer ensuite des ciné-concerts dans lesquels il diffusera ses films sur grand écran derrière lui qui joue devant, autour de ses synthétiseurs. Alors, tout est parti au départ d'un premier projet qui a été, puisqu'on lui a commissionné, le musée d'art contemporain de la Nouvelle-Orléans lui a commissionné un film sur la musique de la ville, et c'est comme ça que sont partis ces projets-là. Donc ensuite, il est allé en Inde, et puis là, dernièrement, aux Antilles. Alors, ce qui est particulièrement touchant, c'est que Chassol a comme objectif d'harmoniser le réel, d'harmoniser le monde avec la musique. Tout simplement, lorsqu'il est en Inde, il pose la question à une sitariste, il lui dit « Alors, à quoi vous pensez quand vous jouez de la sitar ?» Et elle lui dit « Music is God, my love ». Et c'est vraiment ça. La musique est Dieu, mon amour. Il va enlacer cette phrase d'harmonie, de mélodie, et il va construire avec ces mots. Il les utilise comme un matériau musical. Et il va créer une mélodie presque raga, et de ce morceau va raconter la course vers l'infini. On est vraiment transporté. Un autre exemple, à Calcutta en Inde, il va enregistrer les récitations du Notre Père dans une église catholique, Montessori, et la mise en boucle de la mélodie de la prière qui va reprendre au synthétiseur, avant la voix des enfants et de la maîtresse. Ben, tout simplement, on a le sentiment que, malgré les multitudes de particularités religieuses, il semble finalement qu'il n'y ait qu'un Dieu. Voilà, toute cette mélodie est magnifique, toute cette harmonisation de la musique est magnifique. En Martinique, on a une vieille dame qui chante des berceuses, et on a sa toute petite fille à côté qui rigole en l'écoutant chanter, et on sent vraiment que derrière chaque berceuse, Dieu n'est jamais loin. Voilà, c'est Chassol. Alors, je vous conseille d'aller le voir en concert. Il passe notamment du côté de Lens, le 16 mai. C'est à l'occasion de la Nuit des musées. Chassol, c'est sur le label Tricatel. Vous pouvez aussi le retrouver sur chassol.fr. Et tout simplement, quand on le voit, pour vous décrire très brièvement le concert, en fait, il est devant. On a un immense écran derrière et en fait, on vole avec lui. On vole au-dessus de la forêt exotique. On vole sur les routes. Voilà, c'est un voyage initiatique à faire avec Chassol à chaque concert. Et c'est en même temps une immense communion parce que l'unique but de sa musique, c'est de nous transmettre un message de paix, d'union entre les hommes. Je dirais même entre les hommes et la nature. Voilà.
Merci Marie. André Comte-Fonville, je rappelle votre ouvrage « Du tragique au matérialisme et retour, 26 études sur Montaigne, Pascal, Spinoza, Nietzsche et quelques autres ». Je pense que nos auditeurs en auront eu un avant-goût avec cette conversation. C'est au PUF, merci d'être venu nous en parler.
Merci à vous.
C'était Les Racines du Ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélian Var. La semaine prochaine, nous nous rendrons chez Hubert Riffs pour notre série Grand Témoin. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours. Très bon dimanche à tous.